À l'écoute de RFI, 22h30 en temps universel, 23h30 à Paris et à Alger.
Afrique Soir.
Et place à l'actualité africaine pour les 30 prochaines minutes. Et pour commencer, le journal avec Zéphirin Kouadio. Bonsoir, mon cher Zéphirin.
Bonsoir, mon cher Mathis Slimano. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, des centaines de personnes rassemblées ce mardi à Paris en soutien à Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie est en détention depuis le 16 novembre à Alger. Une dette de 7 milliards de dollars accumulée entre 2019 et 2024 au Sénégal sous la présidence de Macky Sall. Le FMI confirme les conclusions de la Cour des comptes sur l'ampleur de cette dette cachée. Et puis des experts des Nations Unies appellent à la libération immédiate et inconditionnelle de 3 militants politiques maliens enlevés il y a près de 2 ans, puis détenus et torturés par la sécurité d'État. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale annonce l'arrestation de l'un des principaux chefs des groupes d'autodéfense qui régnait dans le quartier populaire du PK5 entre 2013 et 2015 à Bangui. Et puis les pays d'Afrique australe et de l'Est élargissent leur équipe de facilitation pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'initiative intervient au lendemain de la fin de la médiation angolaise annoncée par Luanda. Enfin, risquer sa vie pour survivre, c'est le titre d'un rapport publié ce mardi par Médecins Sans Frontières sur la situation sécuritaire en Ituri, une province de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est aussi le dossier de cette édition. Mais d'abord, cette attaque contre l'armée camerounaise dans le nord-est du Nigeria, attaque attribuée aux combattants du groupe Boko Haram. Les assaillants ont infiltré la ville avant de frapper par surprise. Plusieurs bases militaires ont été incendiées, des armes saisies par les assaillants. Le récit de Polycarpe Somba.
Selon des sources sécuritaires à Maroua, l'attaque est survenue dans la nuit de lundi à mardi dans la localité nigériane de Vulgo, frontalière du département camerounais du Logoneshari. Les mêmes sources déclarent que les insurgés de Boko Haram ont pris par surprise les camps de base des forces multinationales mixtes qui comptent en leur sein des soldats nigériens, tchadiens, nigériens et camerounais et qui opèrent dans la région dans le cadre des missions anti-djihadistes. Particulièrement violente, l'attaque qui a duré un peu plus de 2 heures a fait de nombreuses victimes dans les rangs des soldats camerounais, au moins 11 morts et 21 blessés qui ont été conduits dans les hôpitaux de Maroua. Les insurgés ont aussi emporté des armes, dont des canons anti-aériens ainsi que des munitions. Ils ont aussi mis le feu sur ces bases militaires et des véhicules de combat, renseigne pour sa part l'AFP. Cette attaque sur Vulgo en territoire nigérian est l'une des plus meurtrières pour les forces camerounaises, engagées depuis 10 ans contre les islamistes de Boko Haram venus du Nigeria et dont les exactions débordent assez régulièrement côté Cameroun dans les localités qui borde la frontière. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI.
Ce mardi à Paris, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel du comité Laïcité République pour une manifestation en soutien à Boualem Sansal. Je rappelle que demain, la justice algérienne doit rendre sa décision sur le sort de l'écrivain contre qui le procureur a requis 10 ans de prison. Et ce mardi, Willy Diallo, les soutiens de l'écrivain rassemblés à Paris ont dénoncé une procédure injuste.
Sous les encouragements de la foule, les politiques et les proches de l'écrivain ont appelé à sa libération. La voix chargée d'émotion, Kamel Benchek, lui, s'est adressé directement à Boualem Sansal.
Boualem, mon ami, mon frère, ta voix est ici. Nous sommes là et nous crions ton nom, car ton combat est celui de tous les esprits libres, de tous ceux qui refusent de plier, de tous ceux qui savent que la vérité est un droit, pas un crime.
Boualem Sansal est détenu en Algérie depuis le mois de novembre dernier. En France, la classe politique se mobilise pour l'auteur franco-algérien. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, a porté sa demande de libération devant l'Assemblée nationale.
Nous avons déposé une proposition de résolution signée par Constance Le Grip, députée de mon groupe. Et je vous annonce aujourd'hui que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé d'inscrire cette proposition de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et ce sont donc les 577 représentants de la nation qui auront à se prononcer.
Boualem Sansal est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Il a été arrêté 2 semaines après que la France a pris position en faveur du Maroc concernant l'autonomie du Sahara occidental. Pour ses soutiens, il se serait alors retrouvé pris au milieu des tensions qui ont émergé depuis entre la France et l'Algérie.
Reportage signé Willy Diallo. Il y a un mois, la Cour des comptes du Sénégal révélait une dette publique bien supérieure à ce qui avait été déclaré par le gouvernement précédent. Une dette cachée de 7 milliards de dollars accumulée entre 2019 et 2024 sous la présidence de Macky Sall. Dette cachée, confirmée lundi par une délégation du FMI lors d'un déplacement au Sénégal. L'institution financière internationale dit espérer la négociation au plus vite d'un nouveau programme d'aide pour le Sénégal. Je rappelle que les prêts du FMI aux autorités de Dakar sont suspendus depuis septembre. La suite, c'est Claire Fage qui raconte.
Le Fonds monétaire international doit s'assurer qu'un pays a les garanties suffisantes pour rembourser ses traites à l'échéance, ce qui permet à l'institution financière de mettre de nouvelles ressources à la disposition d'autres États. C'est pourquoi une série de sanctions est prévue en cas de fausse déclaration. En 2016, lors de la révélation des 2 milliards de dollars de dettes cachées du Mozambique, des prêts secrets accordés à des entreprises publiques par des banques privées et dont un demi-milliard de dollars est détourné, le FMI suspend son aide budgétaire aux autorités de Maputo. Les versements n'ont repris qu'en 2024. Au Congo-Brazzaville, une dette cachée de quelque 3 milliards de dollars est mise au jour mi-2017. Il s'agit de préfinancements accompagnés de pots de vin accordés par des négociants en échange de livraison de pétrole. Ces prêts sont difficilement remboursables étant donné qu'entre-temps, le prix du baril s'est effondré. En avril 2018, le FMI conditionne son aide à une série de réformes pour plus de transparence dans la gestion des ressources publiques et pétrolières congolaises. La poursuite de ces réformes et la volatilité des cours du brut reste une source d'inquiétude exprimée l'an dernier par l'institution financière.
Explication signée Claire Fage. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demande, je cite, la libération immédiate et inconditionnelle de 3 militants politiques maliens afin qu'ils reçoivent des soins médicaux spécialisés. Il s'agit de 3 membres du Mouvement pour la paix au Mali, le MPPM, et du SADI, parti d'opposition. Ils ont été enlevés en mai et juin 2023, il y a presque 2 ans, et puis détenus et torturés par la sécurité d'État pendant plusieurs mois. Leur dossier a fini par être transmis à la justice. Mais David Bachet, les experts indépendants mandatés par les Nations Unies se disent préoccupés.
Haïdara, Mangane et Togola ont droit à des soins médicaux urgents et le Mali a l'obligation, en vertu du droit international, de faciliter l'exercice de ce droit, estime l'équipe dirigée par l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, qui rappelle les actes de torture subis dans les geôles secrètes de la sécurité d'État, flagellation, scarification physique, électrocution des testicules, qui ont causé de graves souffrances physiques et mentales. En octobre, la Cour africaine des droits de l'homme demandait au Mali de libérer les 3 hommes pour qu'ils bénéficient de soins spécialisés. 2 jours plus tard, le juge d'instruction malien en charge de l'affaire ordonnait lui-même leur libération, cette fois pour un vice de procédure. C'était il y a 6 mois. Les 3 militants politiques sont toujours en prison. Les experts onusiens demandent donc aux autorités maliennes de se conformer à l'ordonnance de la Cour africaine. Ils demandent également l'examen rapide de leur dossier, qui semble, écrivent-ils, avoir été déposé contre eux en représailles à l'exercice de leur liberté d'expression. Poursuivis notamment pour complot contre la sûreté de l'État, les 3 membres du Mouvement pour la paix au Mali avaient dénoncé lors d'une conférence de presse, plusieurs cas d'exactions attribués à l'armée malienne contre des civils.
David Bachet. Et puis au Burkina Faso, la junte au pouvoir a annoncé ce mardi la dissolution de l'association des journalistes du Burkina. La décision intervient au lendemain de l'arrestation de 2 de ses leaders qui avaient dénoncé des atteintes à la liberté d'expression. Il est reproché à l'AJB de ne pas s'être conformé à une loi de 2015 régissant les associations. Lui est l'un des principaux chefs des groupes d'autodéfense qui régnaient dans le quartier populaire de PK5 entre 2013 et 2015 à Bangui, la capitale de la Centrafrique. Mohamed Ali Fadoul est aujourd'hui rattrapé par la justice. Arrêté le 20 mars dernier, il est accusé d'avoir participé à l'attaque du 28 mai 2014, attaque contre l'église catholique Notre-Dame de Fatima dans le 6e arrondissement de Bangui. Pour rappel, l'attaque avait coûté la vie à au moins 15 personnes, dont l'abbé Émile Nzalé. Près d'une 40aine de personnes avaient également été kidnappées et portées disparues. Rolf Steve Domialeux, cette arrestation est un premier pas vers la justice selon de nombreuses victimes.
Debout en face de l'église Notre-Dame, Fabrice enlève ses lunettes, s'incline devant la statue de l'enfant Jésus et fait un signe de croix sur son visage.
L'attaque s'est déroulée ici dans l'après-midi. Les assaillants étaient très nombreux et lourdement armés. Ils ont d'abord lancé des grenades dans l'église avant d'ouvrir le feu sur les fidèles.
Le visage pâle, Bertin, 43 ans, était également dans l'église quand les assaillants ont attaqué les lieux à la veille de l'Ascension.
C'était terrifiant. Ils sont entrés par plusieurs portes, on était tous paniqués. Je courais dans tous les sens avant de me cacher dans le presbytère.
Interpellé par des officiers de police judiciaire le 20 mars 2025 suite à un mandat d'arrêt, Mohamed Ali Fadoul, l'un des présumés commanditaires de cette attaque, est actuellement en détention. Gervais Oporté Bodangaï est porte-parole de la CPS.
Pendant cette attaque, il y a eu des cas de meurtre qui est en lien avec des crimes de guerre et aussi des meurtres d'extermination des personnes considérées comme crimes contre l'humanité pour lesquels la Cour pénale spéciale est compétente. Sa première comparution a eu lieu directement le 21 mars et il est placé en détention par la Cour pénale spéciale.
8 autres personnes ont déjà été inculpées dans le cadre de cette affaire. Pour l'instant, la procédure d'instruction se poursuit. Rolf Esteve Domialeux, Bangui, RFI.
C'est une nouvelle étape qui s'annonce pour la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Réunis lundi en sommet virtuel, les chefs d'État de la SADC et de la Communauté d'Afrique de l'Est ont décidé d'élargir le cadre de la médiation. Ils annoncent donc que 3 nouvelles personnalités rejoignent les anciens présidents Olusegun Obasanjo et Uhuru Kenyatta pour former un panel de 5 facilitateurs. Objectif, relancer un processus de paix encore fragile dans l'est de la RDC.
D'abord une question de confiance. Les noms de Haïlé Mariam Desalegn, ancien premier ministre éthiopien, figuraient sur la première liste. Mais il a été écarté. La délégation congolaise avait exprimé des réserves, jugeant l'ancien dirigeant un peu trop proche de Kigali. Il est remplacé par Saleh Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie. Deuxième ajustement, l'équilibre régional. L'Afrique australe est désormais incarnée dans le panel par Kgalema Motlanthe, ancien président de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique centrale entre également dans le jeu avec Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Avec ces nominations, plusieurs critiques adressées au précédent format sont aussi levées. D'abord, la représentation féminine totalement absente dans la première configuration. Il y a désormais 2 femmes sur 5. Ensuite, la diversité linguistique. Avec Catherine Samba-Panza et Saleh Work Zewde, la voix francophone fait son entrée dans un dispositif jusqu'ici largement dominé par l'anglais. Et maintenant, quelle est la suite du processus? Les 2 présidents en exercice de la SADC et de l'EAC, Emmerson Mnangagwa pour la SADC et William Ruto pour l'EAC, vont convoquer une réunion d'information avec les 5 facilitateurs dans les 7 prochains jours pour lancer officiellement cette nouvelle séquence diplomatique.
Éclairage signé Patient Ligodi. Risquer sa vie pour survivre, c'est le titre d'un rapport que publie ce mardi Médecins sans frontières sur la situation sécuritaire en Ituri, une province de l'est de la République démocratique du Congo. Région en proie à un cycle de violence à caractère communautaire depuis 2017, auquel s'ajoute l'action des groupes armés. L'objectif de ce rapport, mettre un coup de projecteur sur cette situation et dénoncer la recrudescence des atrocités perpétrés dans la région. À Kinshasa, les précisions de Pauline Azidi.
Il faut témoigner du degré de souffrance en Ituri, terre de violence et de déplacement, estime MSF. Si ce rapport documente en détail les années 2023 et 2024, le contexte de violence armée aiguë dans la zone ne s'est pas apaisé en 2025. Et les chiffres actualisés le montrent bien, plus 7% de personnes déplacées uniquement pour ces 3 derniers mois. Au total, plus d'1 400 000 personnes ont dû quitter leur habitation en raison de cette crise sécuritaire. Depuis décembre 2022, selon les Nations Unies, plus de 2300 civils ont été tués dans cette seule province. Plus de 800 victimes de violences sexuelles ont été recensées. Conséquence de cette situation, les conditions de vie se dégradent. Près de 43% de la population est en insécurité alimentaire chronique. Et l'organisation médicale de noter que la réponse sur le terrain n'est pas à la hauteur des besoins. Une crise éclatée éclipsée en partie par celle qui secoue les provinces voisines du Nord et du Sud Kivu avec l'action du groupe armé M23. MSF appelle donc à un regain de mobilisation des bailleurs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et MSF évoque dans son rapport les nombreux centres de santé, pris pour cible dans la province de l'Ituri. L'accès aux soins de santé sont donc entravés, alerte l'organisation. Écoutez ce que nous en dit Emmanuel Lampart, le représentant pays de MSF en RDC au micro de Pauline Azidi.
Un des gros volets qu'effectivement qu'on essaye de mettre en avant à travers ce rapport, c'est le manque ou le non-respect de la mission médicale. Les structures sanitaires, le personnel, les soignants, les accompagnants, mais aussi les moyens qui assurent la continuité de soins, les référencements à travers les ambulances, doivent à tout prix être respectés. Donc, un de nos appels clés à travers ce rapport, c'est en appeler aux porteurs d'armes, à tous ceux et celles qui ont un rôle et une responsabilité à renforcer le respect du droit humanitaire international.
Contexte de violence aiguë qui a d'importantes répercussions psychologiques que vous notez dans le rapport aussi.
Effectivement, à travers l'ensemble des consultations et sur base des données médicales 2023-2024, 43% des admissions incorporent un volet important de souffrance psychologique. Et donc ça fait partie intégrée de la réponse, notamment dans ce contexte, que ce soit à travers nos équipes au niveau des formations sanitaires qu'au niveau de la réponse dans les sites de déplacés.
Vous êtes présent depuis 2003 en Ituri MSF. Cette crise sécuritaire qu'on est en train de vivre actuellement, elle date de 2017. Qu'est-ce que ce rapport apporte de nouveau ?
Ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est effectivement les fantômes en termes de tensions intercommunautaires et les violences qui vont avec de 2017-2018 réapparaissent. On les retrouve davantage. Et donc, à travers ce rapport et surtout les témoignages, on essaye d'amener la voix des bénéficiaires, de ceux et celles qui vivent, qui ont vécu, mais aussi nos équipes qui assistent cette souffrance et lancer des appels pour qu'il y ait davantage aussi une attention, une lumière portée à ce conflit qui parfois, ou ce contexte qui est parfois oublié, négligé, et donc à sa juste titre. Nous devons toujours porter une attention à toute population qui risque sa vie pour survivre toujours.
Emmanuel Lampart, le représentant pays de MSF en RDC, pour ce dossier signé Pauline Azidi. Dépôt d'une plainte en Allemagne contre les violences au Tigré. Pour rappel, entre le conflit entre le Front de Libération du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien de 2020 à 2022 avait fait au moins 600 000 morts. 8 témoins de ces atrocités ont donc décidé de déposer une plainte contre de hauts responsables et officiers éthiopiens et érythréens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les précisions de Paul Lorgerie.
La plainte déposée en septembre 2024 et complétée avec de nouveaux éléments le 20 mars dernier concerne 12 hauts dignitaires dont les noms n'ont pas été dévoilés. Les 8 plaignants qui ont requis l'anonymat et dont la plupart résident en Allemagne ont été témoins de différents meurtres, viols ou encore détentions arbitraires. Donc pour Nick Lady, à la tête du département des contentieux de l'association Legal Action Worldwide qui a rédigé la plainte, il y a de bonnes raisons de croire que les faits reportés constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
La plainte, qui fait environ 100 pages, est constituée d'analyses approfondies, de preuves en source ouverte, ainsi que de témoignages de nos clients qui sont des victimes. Toutes ces preuves, mises bout à bout, devraient être suffisantes pour que le procureur allemand ouvre une enquête et, espérons-le, délivre un mandat d'arrêt.
Cette plainte intervient alors que la situation se détériore de nouveau dans la province du Tigré sur fond de tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le 14 mars dernier, l'Union africaine exprimait sa profonde inquiétude, et ce malgré d'autres écritures contre l'État éthiopien portées en 2022 par l'association de Nick Lady devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Commission qui avait alors émis en octobre 2022 des mesures conservatoires d'urgence pour empêcher que les violations ne se reproduisent.
Une précision signée Paul Lorgerie. Et puis en football, on dispute la 6e journée des éliminatoires de la zone Afrique, avec 15 matchs au programme aujourd'hui. Et ça joue encore en ce moment. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Zéphirin.
Et le Sénégal est notamment opposé au Togo.
Oui, ce groupe B très disputé, les Lions de la Teranga mènent 2-0 à domicile face au Togo. Il reste quelques instants à jouer, même chose donc pour la RDC dans le même groupe. qui affronte la Mauritanie pour l'instant 2-0 également en Mauritanie. De son côté, l'Algérie est bien partie dans le choc du groupe G face au Mozambique. À quelques minutes de la fin, les Fennecs mènent 5-1 et prendraient une sérieuse option sur la qualification si le score était confirmé. Et puis dans le groupe I, les Comores affrontent le Tchad, les Comores mènent 1-0. Dans le groupe E, le Maroc et la Tanzanie sont à égalité 0-0. Non, le Maroc vient de marquer Zéphirin. Le Maroc qui mène grâce à Naïef Aguerd face à la Tanzanie. Il reste un peu moins d'une mi-temps.
Et plus tôt dans la soirée, Cédric, le Cameroun a lui obtenu un succès important.
Oui, une victoire 3-1 contre la Libye à Yaoundé, notamment grâce à un doublé de Vincent Aboubakar. Les Lions Indomptables sont deuxièmes du groupe D à un point du Cap Vert, le leader vainqueur en Angola 2-1. Victoire de l'Égypte 1-0 contre la Sierra Leone, du Botswana contre la Somalie 2-0 et puis un partout entre le Soudan et le Soudan du Sud. Enfin, carton du Burundi contre les Seychelles 5-0.
Et puis le Bénin a fait plutôt une mauvaise opération.
Les partenaires de Steve Mounier se sont inclinés 2-0 face à l'Afrique du Sud à Abidjan, là où avait lieu la rencontre. La conséquence, eh bien, les Bafana Bafana sont en tête du groupe C avec un matelas de 5 points sur le Rwanda et sur les Béninois. La mauvaise opération pour le Nigeria également, tenu en échec par le Zimbabwe. Un partout, malgré un but de Victor Osimhen. Le Nigeria qui est quatrième du groupe, à noter également, eh bien, ce match nul, un partout, entre le Rwanda et le Lesotho. Voilà.
Voilà. Eh bien, je rappelle également à Cédric, que les premiers de chaque groupe sont qualifiés. Au total, 9 équipes iront donc au mondial. Le meilleur deuxième de groupe sera qualifié, lui, pour un barrage face à une équipe sud-américaine pour avoir une chance de disputer cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Merci beaucoup, Cédric de Oliveira. Et on parle maintenant d'une histoire qui a ému les Nigériens et provoqué une vague de solidarité. Cette histoire, c'est celle de Yasmina, une jeune orpheline atteinte d'une maladie rare et incurable qui a besoin de se rendre à l'étranger pour recevoir des soins. 3 semaines après son lancement, une cagnotte en ligne a permis de récolter des dons suffisants pour financer son évacuation sanitaire. C'est un récit signé Magali Lagrange.
En robe fleurie, Yasmina affiche un sourire sur un visage juvénile sur la photo qui accompagne la cagnotte lancée sur les réseaux sociaux. La jeune étudiante est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque raideur musculaire et spasmes douloureux. Diagnostiquée en septembre dernier à Tunis, la maladie est incurable, mais des traitements peuvent en soulager les symptômes. Des traitements que la jeune orpheline, décrite comme une élève brillante, n'a pas les moyens de payer puisqu'ils nécessitent de se rendre à l'étranger. Elle et plusieurs jeunes Nigériens décident alors de prendre les choses en main. Au début du mois, une cagnotte en ligne est lancée pour financer son évacuation en Turquie. L'appel est relayé sur les réseaux sociaux, opérateurs économiques, fondations, anonymes mettent la main à la poche pour lui venir en aide. L'objectif de départ, 40 millions de francs CFA, est déjà largement dépassé. L'équivalent de 100 000 euros ont été récoltés. Je ne saurais assez remercier, confie Yasmina sur une chaîne locale. Hier, les dons continuaient d'arriver. La cagnotte reste ouverte pour financer la suite des traitements.
Récit signé Magali Lagrange. Je vous invite maintenant à Mwanda, capitale du Monganèse. C'est dans cette ville de l'est du Gabon que l'on forme depuis la rentrée 2016 les mécaniciens et les ingénieurs du secteur minier. Cela se passe à l'école des mines et de la métallurgie, créée via un partenariat entre l'État, des personnalités locales et le géant français Eramet. Une école qui n'entend pas se contenter d'être le centre de formation de la Comilog, la filiale d'Eramet qui exploite le manganèse de Mwanda. Elle veut aussi s'imposer comme la référence en Afrique centrale. Reportage François Mazé.
Le campus est vaste et vert, les chambres et l'amphithéâtre quasi neuf, et c'est avec une certaine fierté que Sylvain Patrick Makoumachana mène la visite. Il est le directeur des études de l'E3MG.
Oui, il faut faire des cadres issus de nos écoles promptes à accompagner l'exploitation de matières premières. Moi, à l'époque, on faisait 2 ans à l'USTEM, l'Université des sciences et techniques de Mansoukou. Et donc, il fallait aller faire la licence, la maîtrise, tout le reste, notamment en France. Beaucoup sont allés aussi au Canada. On n'avait pas vraiment l'instrument pour ça.
Les cours sont assurés par 4 enseignants à temps plein et par des vacataires qui interviennent à distance. On y travaille aussi bien les langues que la métallurgie. pour des étudiants, futurs ingénieurs et mécaniciens qualifiés, mais aussi pour des cadres déjà actifs. Passé par le secteur aurifère, Glenn s'est réorienté vers le manganèse lors de son passage à l'E3MG.
Concrètement, au niveau de la mine métallurgie, on apprend beaucoup plus sur on va dire la minéralogie, l'étude géologique. Donc avec les différents plateaux que nous avons, on a travaillé beaucoup plus le cas du manganèse, de l'or. On a parlé un peu d'autres matières. Mais moi, particulièrement, je me suis appesanti sur la partie minéralogique, donc un peu le process. Et une partie aussi, on a fait un peu la métallurgie. Donc moi, particulièrement, moi, j'étais vice-major de la promotion. Je me retrouve ici. Avec le major de la promotion, nous avons commencé ensemble sur le même site. Et jusqu'à présent, nous sommes ici aussi ensemble.
Comme la moitié de la trentaine de diplômés annuels, Glenn a été embauché à la Comilog, le géant local et parrain de l'école, dont elle est actionnaire à 49%. Mais Sylvain Patrick Makoumachana assure que l'école des mines n'est pas seulement la pépinière de l'entreprise.
Elle est singulière, on va dire. 40-50% à Comilog. Le reste, nous avons Nouvelle Gabon Mining, nous avons la société Quaterre des mines. Nous avons plein de partenaires comme ça. Bientôt, on va en voir dans les sucreries, dans les brasseries, parce que à cause de nos métiers, de leur formation, nos étudiants se font accueillir partout ailleurs.
Chaque année, quelques étudiants étrangers viennent à Moanda se former. Ils travaillent au renforcement du réseau international de l'école. Des partenariats sont tissés avec des institutions en France, en Tunisie, au Maroc, en Côte d'Ivoire ou encore au Niger. Le 3MG ambitionne de devenir la référence éducative en Afrique centrale. François Mazet, de retour de Moanda, RFI.
RFI 23h56 à Paris et le dernier rendez-vous de cette édition d'Afrique Soir nous conduit au Maroc pour une rencontre avec Babel Blues. Ce groupe de rock ésotérique franco-marocain formé à Marrakech en 2018 est issu du mouvement culturel Naïda de la nouvelle scène marocaine. Le duo Brice Botin et Yursa Mansour produit une musique qui traverse le temps et les frontières. Ama est le second single de leur dernier album intitulé Swaken.
Yeah.
Amar, extrait de Swaken, le dernier album de Babel Blues, groupe de rock ésotérique franco-marocain. Ainsi s'achève cette édition d'Afrique Soir, réalisée par Raphaël Lazizi. Excellente fin de soirée à toutes et à tous à l'écoute de Radio France Internationale.